Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Guerrier et paysan, 7e-12e siècle, de Georges Duby. Plus particulièrement spécialiste des 10e, 11e, 12e et 13e siècles en Europe occidentale, l'historien Georges Duby contribue tout au long de ses ouvrages à renouveler les méthodes et les objets de la discipline historique. Auteur de vastes études, Guerrier et paysan, 1973, L'Europe au Moyen-Âge, en 1979, il pousse encore plus loin ses recherches sur la société médiévale en reprenant la célèbre trifonctionnalité de Georges Dumézil, les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme en 1978, tout en renouvelant l'archétype de l'événement historique dans un livre aujourd'hui célèbre par le paradoxe apparent qu'il affirme dans son titre « Le dimanche de Bouvines » sur la bataille de Bouvines, publié en 1973. Grand admirateur de Fernand Braudel, il appartient cependant à la troisième génération d'historiens de l'École des Annales, fondée en 1929 par Marc Bloch et par Lucien Febvre, notamment par ses apports à l'histoire des mentalités, constitutive de cette troisième génération. 1024. L'empereur Henri II est mort. Face au désarroi, l'évêque Gérard de Cambrai demande qu'on écrive un texte qui sera une arme doctrinale contre les contestations probables. 1031. Aldabéron d'Elan adresse un poème au roi Robert où on trouve la phrase « Les uns prient, les autres combattent, les autres encore travaillent. Ainsi est née l'idéologie des trois ordres. » Au IIIe siècle, un bouleversement s'opère. La renaissance des cités, la formation des États, superpose une nouvelle pression fiscale à celle des seigneuries locales. Pour pouvoir payer les impôts en argent, les paysans doivent vendre leur production aux commerçants urbains, souvent à crédit, s'endettant encore davantage. La condition paysanne a donc été douloureuse et conflictuelle, annonciatrice des longues luttes des temps modernes. Georges Duby est né le 7 octobre 1919 à Paris, dans le 10e arrondissement, d'une famille d'artisans. Il commence sa carrière dans l'enseignement secondaire, puis est nommé assistant à la faculté de lettres de l'Université de Lyon, à la Libération, enseigne quelque temps à Besançon, puis obtient la chaire d'histoire du Moyen-Âge à la faculté de lettres d'Aix-en-Provence en 1951. Il se fixe alors en Provence. En 1952, Georges Duby soutient à la Sorbonne sa thèse de doctorat ès-lettres, réalisée sous la direction de Charles-Edmond Perrin et intitulée « La société au XIe et XIIe siècle, dans la région mâconnaise ». Sa thèse complémentaire étudie les pancartes de l'abbaye cistercienne de La Ferté-sur-Gronne, 1113-1178. En 1970, Georges Duby est élu à la chaire d'histoire des sociétés médiévales du Collège de France, qu'il occupe jusqu'en 1991. Dans les dernières années de sa vie, il ne renia jamais ses origines mâconnaises, présida l'Institut de recherche du Val-de-Saône mâconnais, fondé en 1992, dont il fut le premier président de 1992 à 1994. Georges Duby meurt le 3 décembre 1996. Les archives, manuscrits et tapuscrits qu'il a constitués durant sa carrière sont réunis dans le fonds Duby, déposé pour l'essentiel par sa veuve, André Duby, depuis 2003, à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Sa femme décède le 19 août 2016 à l'âge de 96 ans. Georges Duby et son épouse sont enterrés au cimetière du Tolonnay. « Les trois ordres. Dans ce modèle idéologique qui fut construit par les intellectuels, lesquels en ce temps appartenaient tous à l'Église, les spécialistes de la prière se situent évidemment au sommet de la hiérarchie des ordres. De ce fait, non seulement ils devaient être exempts de toutes les ponctions que le pouvoir aurait pu opérer sur leurs biens par le pillage ou par le jeu de la fiscalité, mais il apparaissait nécessaire qu'une part éminente de la production parvint entre leurs mains pour être, par leur entremise, offerte à Dieu, afin de gagner ses faveurs. Une telle conception invitait donc à privilégier parmi les actes économiques ceux de consécration et de sacrifice. Effectivement, son installation dans la conscience collective coïncide avec le moment où le flot des donations pieuses en faveur des établissements religieux atteignit son ampleur la plus grande. Jamais sans doute, dans l'histoire de l'Église chrétienne d'Occident, les aumônes des laïcs ne furent plus abondantes que pendant les 5 ou 6 décennies qui encadrent l'an 1000. Les fidèles donnaient alors à toute occasion pour acheter telle faute qu'ils venaient de commettre et dont ils savaient qu'elle mettait leur âme en péril. Ils donnaient plus généreusement encore au risque de dépouiller dangereusement leurs héritiers sur leur lit de mort, pour leur sépulture et pour gagner l'appui des saints tutélaires devant le tribunal de Dieu. Ils donnaient ce qu'ils pouvaient, c'est-à-dire avant tout de la terre, considérée alors comme de la richesse la plus précieuse, surtout comme c'était généralement le cas, et elle était garnie de travailleurs paysans susceptibles de la mettre en valeur. Sans doute les documents écrits dont disposent les historiens pour connaître cette époque proviennent-ils tous des archives ecclésiastiques ? Ce sont pour la plupart des actes qui garantissent les acquisitions des églises. Ils mettent donc en particulier évidence ce phénomène et risquent de conduire à en exagérer la portée. On peut cependant considérer cet énorme transfert de bienfonds dont bénéficièrent en premier lieu les abbayes bénédictines et secondairement les églises épiscopales comme le mouvement le plus vif qui ait alors animé l'économie européenne. Il établit l'Église d'Occident dans une position temporelle prééminente. De la part de ceux qui s'efforçaient de mieux comprendre le message évangélique, il suscita bientôt, dès le milieu du XIe siècle, des critiques. La volonté de dégager les serviteurs de Dieu de préoccupations trop matérielles, de les extraire d'une prospérité trop charnelle. Il entretint une inquiétude où s'alimenta la vigueur de toutes les propagandes hérétiques et où prirent naissance les tentatives successives de réforme. Il fut enfin croître sans cesse, pendant le XIe siècle et le XIIe siècle, le nombre des moines et des clercs. Ces hommes n'étaient pas tous entièrement écartés de la production. Le clergé rural demeura, pour sa plus grande part, au niveau de la paysannerie dont il sortait et dont il partageait les mœurs. Les églises et les chapelles de campagne étaient desservies par des prêtres qui poussaient eux-mêmes la charrue et qui exploitaient avec leur famille, beaucoup en effet étaient mariés, le lopin de terre que le maître du sanctuaire leur avait concédé en rétribution de leur service et dont ils tiraient l'essentiel de leur subsistance. D'autre part, les communautés de moines et de chanoines réformés qui se répandirent à partir de la fin du XIe siècle imposaient par une exigence de rigueur ascétique le travail manuel à leurs membres et notamment à ceux qui, recrutés parmi les rustres, ne pouvaient participer pleinement à l'office liturgique. Le labeur et la condition matérielle de ces convers étaient semblables en fait à ceux des paysans. Un grand nombre des hommes d'église cependant, et les plus riches, ceux qui recueillaient les offrandes les plus considérables, étaient de purs consommateurs. Ils vivaient dans un confort seigneurial qui, pour certains d'entre eux, ceux qui vivaient aux alentours des églises cathédrales, confinaient à celui des laïcs les plus puissants. Enfin, et surtout, ils ne concevaient pas que leur fonction, le service de Dieu, pût être rempli sans somptuosité. Des richesses qui leur apparaissaient normales de recueillir en abondance, ils consacraient sans doute une part au secours des pauvres. Ils pratiquaient très largement l'hospitalité. À la porte des sanctuaires, les indigents recevaient de la nourriture ou des pièces de monnaie, et ces aumônes rituelles prenaient plus d'ampleur en temps de calamité. Cet office de redistribution, que circonscrivent avec soin les règlements économiques des grands établissements monastiques, n'était certes pas négligeable. Et l'on peut considérer que, dans une société qui restait fort démunie et qui entretenait dans ses soubassements une masse vivace et grossissante d'indigents et de déclassés, il contribua très efficacement à restreindre l'extension de la misère. Il demeurait cependant secondaire en regard d'une exigence primordiale, celle de célébrer dans le luxe le plus éclatant, l'office divin. Le meilleur usage que les dirigeants des monastères et des églises cathédrales pensaient devoir faire de leur fortune, c'était d'embellir le lieu de la prière, de la reconstruire, de l'orner, d'accumuler autour de l'autel et des reliques des saints les splendeurs les plus éclatantes. Assuré de ressources que la générosité des fidèles ne cessait d'accroître, il n'avait qu'une attitude économique, dépenser pour la gloire de Dieu. Dépenser pour la gloire de Dieu. Cette attitude était celle aussi des membres du second ordre de la société, les spécialistes de la guerre. Ils dépensaient, mais pour leur propre gloire et pour les plaisirs de la vie. Cette catégorie sociale qui fournissait à l'Église toutes ses équipes dirigeantes, qui détenait la force et qui, en dépit des interdits dressés par la morale de la paix de Dieu, en usait durement, doit être tenue, malgré la valeur prééminente attribuée aux missions des gens d'Église, malgré leur richesse et sans doute leur supériorité numérique, pour la classe dominante de ce temps. De fait, c'est bien en fonction de sa puissance et de sa conduite que fut construite la théorie des trois ordres et que furent forgées, tant bien que mal, les institutions de paix. Ce sont bien sa situation et ses comportements qui régissent au XIe et au XIIe siècle toute l'économie féodale. Elle détient la terre, hormis cette part que l'angoisse de la mauvaise mort lui fait abandonner à Dieu, à ses saints et à ceux qui le servent. Elle vit dans l'oisiveté et tient les tâches productives pour indignes de son rang et de cette liberté éminente dont elle prétend se réserver le privilège. Parce que la dissolution de l'autorité monarchique a fini par établir tous ses membres dans une position d'indépendance et dans des attitudes mentales qui, jadis, avait été celle des rois, elle n'accepte aucune contrainte, aucun service, sinon ceux qu'elle a librement choisi de rendre et qui, parce qu'ils ne prennent pas la forme de redevances matérielles, ne lui paraissent pas déshonorants. Elle refuse donc toute prestation qu'elle n'a pas consentie et n'accepte de se dépouiller de ses biens que par des dons gratuits et par des générosités mutuelles. Sa vocation est la guerre. Et le premier emploi qu'elle fait de sa richesse est de se procurer les moyens les plus efficaces de combattre par l'entraînement physique auquel elle consacre tout son temps et, d'autre part, par des investissements dont elle attend un seul bénéfice, l'accroissement de sa puissance militaire. Dans l'économie domestique des hommes de ce groupe, une part notable des revenus et qui, semble-t-il, se gonfle tout au long des XIe et XIIe siècles, est affecté au perfectionnement de l'équipement des guerriers, à l'amélioration des qualités du cheval, qui devient alors le principal instrument du combattant et le symbole même de sa supériorité. C'est à ce moment que ces guerriers s'accoutument à se définir comme des chevaliers, à se procurer de meilleures armes offensives et défensives. Dès la fin du XIe siècle, la cuirasse est déjà devenue si complexe qu'elle vaut le prix d'une bonne exploitation agricole. Et les perfectionnements de l'armement sont à la source du développement constant de la métallurgie du fer. Tandis que le progrès rapide de l'architecture militaire dans le cours du XIIe siècle fait s'ouvrir auprès des chantiers des églises d'autres chantiers, ceux des châteaux qu'il est nécessaire de rénover. Mais il est une autre occasion de dépenser dans ce groupe social que gouverne l'esprit de compétition et où la valeur individuelle ne se mesure pas seulement à la bravoure et à la virtuosité dans l'exercice des armes, mais à la parure, au faste et à la prodigalité. Dans la morale que cette aristocratie s'est peu à peu donnée, l'une des vertus primordiales est la largesse, c'est-à-dire le plaisir de gaspiller. Comme les rois de jadis, le chevalier doit avoir les mains toujours ouvertes et répandre autour de lui la richesse. La fête, les réunions, où les biens de la terre sont collectivement et joyeusement détruits dans les ripailles et dans les rivalités de l'ostentation, constituent, avec la guerre, le point fort de l'existence aristocratique. Le milieu économique que représente dans la société de ce temps le groupe des chevaliers est par vocation professionnelle celui de la rapine. Il est par ses usages celui de la consommation. Reste le troisième ordre, celui des travailleurs. La couche mère formée de l'épaisse masse du peuple et dont chacun est persuadé qu'elle doit fournir aux deux élites des oratores et des bellatores, de ceux qui prient et de ceux qui combattent, les moyens de leur oisiveté et l'aliment de leurs dépenses. Sa fonction même, cette situation spécifique qui, selon les décrets de la Providence, l'avoue sans espoir de s'en distraire, au labeur manuel réputé dégradant, la prive de la liberté pleine. Tandis que se diluent les dernières formes de l'esclavage, tandis que dans la plupart des provinces de France se perd au début du XIIe siècle l'usage du mot « servus », la paysannerie dans son ensemble, sur qui s'appesantit, renforcée, et qui subsiste des contraintes du pouvoir, apparaît soumise par sa situation même à l'exploitation d'autrui. D'autres gagnent pour elle son salut par des prières, d'autres sont chargés en principe de la défendre contre les agressions. Pour le prix de ses faveurs, ses capacités de production sont totalement prisonnières des cadres de la seigneurie. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.